Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est bon d'être ensemble. On n'est pas fait pour vivre seul. On a été sauvés, ça a été dit abondamment ce matin, de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Mais nous ne sommes pas mieux qu'eux. Le Seigneur nous a rachetés et on est contents. Il ne nous a pas sauvés tout seul dans un coin pour nous mettre sous verre. Il nous a... tout de suite intégré dans un corps. Ah, c'est là que ça se gâte, mais c'est là que c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. Nous étions les 7, 8 et 9 mars à une, ça s'appelle une convention des ministères ou une pastorale, comme vous voulez. Je voudrais vous apporter quelques éléments sur ce qui s'est partagé là-bas. Et puis, alors j'aurai un peu deux parties dans mon intervention ce matin. D'une part, je vais vous situer différentes entités, par exemple. Je vais vous parler de quelques sigles. La FEPEF, la SF, le CNEF. C'est pas drôle, tous ces machins-là. Je crois que c'est important, quand même. Là, on a une vie d'église locale. Yves et Marie-Thérèse qui ont fait une petite tournée de 10 jours. Vous voyez, les ministères, les services évoluent au fil du temps. Puisque quand on sert Dieu, il n'y a pas de retraite. Et il y a une dimension nouvelle qui s'ouvre pour Yves et Marie-Thérèse d'aller exhorter. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont reçu, l'exhortation, l'encouragement. S'il y a quelque chose qui les caractérise, et je peux en témoigner, c'est cela. Donc ils ont exhorté, ils ont vu différents serviteurs de Dieu au cours de leur tournée, parce qu'en 25-30 années de ministère, on tisse des relations. Et justement, ce dont je vais vous parler ce matin, entre autres, ces fédérations, ces communions, ces dénominations, à l'origine, je crois que c'est important de resituer que c'est des choses aussi voulues par Dieu quelque part, pour qu'il y ait des liens qui se tissent entre serviteurs de Dieu et au-delà de ça, entre les communautés. Donc j'aborderai quelques points là-dessus. Je vous dirai ensuite ce qui s'est passé, un peu les thèmes abordés au cours de cette convention des ministères mars 2016 dans la fédération à laquelle nous appartenons, j'y reviendrai. Et puis, je développerai un point, alors courtement, parce que autour de la dimension prophétique dans l'Église, et j'y ajoutais la dimension prophétique de l'Église. Alors ça fait beaucoup de choses, j'ai pas la prétention de tout aborder en détail, mais je pense que de temps en temps, c'est bien qu'on s'arrête, et puis entre nous, là, on est la famille locale, de partager un peu tout cela. Alors, convention des ministères ou pastorale, c'est la réunion de serviteurs de Dieu, ce qu'a appelé au sens des ministères d'Éphésiens 4, et aussi plus largement des anciens, de ceux qui sont reconnus dans leur assemblée ancienne. Ils sont invités à se retrouver. Alors, pour nous, ici, l'Église de la Bonne Nouvelle est rattachée, si on veut, à une communion d'Église ou une fédération qui s'appelle la FEPEF. Ça veut dire la Fédération des Églises du Plein Évangile en francophonie. Alors, un tout petit historique de cette fédération, parce que souvent, les chrétiens... Quand on leur parle de fédération, de structure, « Oh, moi, Dieu me parle !» Alors déjà, on a bien du mal à recevoir quelque chose de frère ou de sœur. Alors, de fédération, de structure, ça, c'est le monde. Non. Il y a quand même, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, pour cette fédération? Eh bien, tout simplement, quelques serviteurs de Dieu qui avaient reçu des choses de la part du Seigneur et qui ont cherché à se rencontrer, ils se sont trouvés. Souvent, ces choses-là ne sont pas une décision d'un homme qui dit « j'ai envie de construire une fédération », pas du tout. C'est souvent dans la douleur que ça se crée. Il y a des incompréhensions, il y a des choses, et puis à un moment, le Seigneur trace une voie, suscite des rencontres. Je sais que dans ma vie, je me suis converti en 2003, et c'est pas très vieux quand même, et le Seigneur a suscité des rencontres. À travers un livre, j'ai rencontré son auteur. Le Seigneur m'a béni, m'a visité, m'a fait rencontrer des serviteurs qui m'ont vraiment aidé sur mon parcours. Donc je crois qu'il conduit des choses. Quand on lui obéit, il conduit des choses. Et il fait des connexions. Notre Dieu est un Dieu de connexions. Donc soyons attentifs parce que on a nos plans, souvent nos stratégies. Mais lui, il crée des connexions. Et je peux vous dire que quand c'est lui qui intervient, on le sait. Il n'y a pas de doute qui vient là-dessus. Alors la FEPEF est née comme ça, de serviteurs de Dieu qui se sont retrouvés partageant les difficultés qu'ils rencontraient et qui ont fait une chose aussi, ils ont vérifié qu'ils étaient bien positionnés, qu'ils avaient bien la même foi, du moins sur les choses fondamentales de la foi, qui nous sont rappelées dans l'hébreu, mais qui sont rappelées Jésus-Christ, véritable homme, nouvel Adam, fils de Dieu, mort pour nos péchés à la croix, seul sacrifice par lequel nous puissions être sauvés, ressuscité, monté aux cieux, et qui revient en gloire, et qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà quelques-uns des articles sur lesquels, j'allais dire, il n'est pas possible de négocier. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à négocier dans la parole de Dieu, mais il y a des points après secondaires, et on le voit tout au long de l'histoire de l'Église, il y a des points, et puis il y a des réveils, des réformes permanentes dans l'Église, parce que nos cœurs ont besoin d'être formés. Nos cœurs sont prompts à s'éloigner de Dieu. Donc, régulièrement, tout au long de l'histoire de l'Église, on voit des hommes qui surgissent et qui disent « mais il est écrit, mais nous ne vivons pas cela, nous nous sommes écartés ». Alors, on connaît évidemment les temps comme la Réforme, où là, après un millénaire où vraiment la puissance de la parole de Dieu avait été étouffée, largement étouffée, surtout l'Occident. Néanmoins, n'oublions pas, il y a toujours eu des chrétiens authentiques, nés de nouveau, fidèles à la parole. Et je vous invite là-dessus à lire un livre qui s'appelle « L'Église ignorée », hein, qui trace assez bien tout au long des siècles. Il y a toujours eu des chrétiens. Vous savez, la Bible, c'est le livre du petit nombre, hein, du petit reste, toujours témoin de la réalité, du salut, de la puissance de Dieu, de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors, ces frères se sont rencontrés, se sont mis d'accord. C'est des frères qui partageaient, je dirais, ce qu'on appelle aujourd'hui une vision charismatique. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Parce que c'est mis à toutes les sauces, cette affaire-là, qui finalement reconnaissait que les dons tels qu'ils sont exprimés dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12, n'étaient pas terminés avec les apôtres, mais continuaient. Dieu ne change pas, et on le voit, ça se démontre bien par la parole. Nous faisons, en tant qu'Église de la Bonne Nouvelle, partie, nous sommes d'accord avec ces points-là. Hein, on va dire globalement. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toute espèce de manifestation dans tous les sens, mais on est d'accord avec son point-là, que l'Éternel est toujours celui qui guérit, qui délivre, qui sauve, qui reste aujourd'hui. C'est un Dieu qui il donne des dons de guérison, de prophétie, que les ministères, je vais y revenir un peu, que ce soit les ministères, les cinq ministères sont toujours d'actualité, etc., etc. Voilà, hein, c'est-à-dire que on croit que la parole de Dieu, celle du Nouveau Testament, celle de l'Ancien aussi, mais qu'on est bien dans la Nouvelle Alliance, dans l'Alliance du Nouveau Testament, dans l'économie du Saint-Esprit, voilà ce que nous croyons, hein, je le fais autrement. Donc ces hommes se sont retrouvés, et voilà comment est né, d'abord, quelque chose de tout à fait informel. Des hommes avec souvent leur conjoint, les différents ministères, qui se retrouvaient parce qu'ils étaient d'accord sur ces choses-là. Il y avait un accord de cœur, il y avait une communion d'esprit. Et donc, ils avaient simplement dit, finalement, ce qu'on vit, c'est une alliance spirituelle et fraternelle. Et ça a donné ASF, Alliance spirituelle et fraternelle. Et dans ce cadre-là, ils avaient décidé de se retrouver deux fois par an, au moins. Alors, ils tournaient d'une église dans l'autre, etc. Et puis, ceci, Dieu a validé, c'était bien la volonté de Dieu que ces choses se fassent. Et au fil des années, le nombre des ministères qui se retrouvaient ainsi a augmenté, de telle sorte qu'ils ont dû se constituer aussi en association. Parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons encore dans ce monde. Il y a des formes, il y a des lois dans les pays, et donc ils ont constitué une association d'église. Je raccourcis un peu. Si vous voulez voir l'historique de la FEPEF, nous allons bientôt le mettre sur le site. Bien, je vais plutôt dire ça. On va bientôt le mettre sur le site. Vous trouverez l'historique de la fédération à laquelle nous sommes affiliés à ce jour. Hein. Et donc, ils ont créé la FEPEF, la Fédération des Églises du plein évangile en francophonie. Ça avait un autre nom avant, mais voilà où on en est aujourd'hui. C'est une fédération qui regroupe une centaine d'églises à peu près, de tailles très, très diverses. Il y a des églises numériquement très importantes, par exemple la porte ouverte, l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, l'église du Chandelier à Lyon, et puis quelques églises importantes. Mais très rapidement, il y a aussi beaucoup de petites assemblées. Hein. Voilà. Donc notre assemblée a été rattachée à la FEPEF dès l'origine. Notamment a été au bénéfice, il faut le dire, du ministère de Pierre Truchel, qui était un ministère apostolique hein, à Grenoble, qui est disparu très tôt. Hein, Pierre Truchel est décédé, il avait une soixantaine d'années, hein, mais qui avait vraiment un ministère. Et puis, c'est le rôle de l'apôtre hein, de fonder, d'aider, d'encourager. Et à un moment, vous savez, c'est comme le marcotage. Hein, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le marcotage. Hein, une branche qui se courbe, c'est intéressant d'ailleurs. On est encore sur les arbres, une branche qui se courbe, pas une branche qui se dresse. Jamais elle va s'enraciner, elle. Une branche qui se courbe, et puis qui prend racine, et puis quand elle a un peu son autonomie de vie, elle s'est enracinée, on peut couper de l'arbre qui a donné, qui a permis ce marcotage. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'Assemblée ici. Alors, voilà pour la FEPEF. Il y a nous sommes également, à travers la Fédération des Églises du Plein Évangile en francophonie, nous sommes aussi affiliés au CNEF. Alors le CNEF, c'est beaucoup plus récent, ça date de 2010. C'est le Conseil national des évangéliques de France. Alors, le CNEF, pourquoi le CNEF? Yves le rappelait, il y a plein de dénominations, hein, les évangéliques... Les protestants évangéliques sont issus de mouvements de réveil, finalement, d'ici, de là, au fil des siècles, depuis la Réforme. On a les baptistes, les anabaptistes, les méthodistes, les darbistes, enfin bon, il y a plein de choses. Et les assemblées de Dieu... une fédération comme la nôtre, je vois des amis là qui viennent de Quimper, là qui sont une communauté qui est rattachée à la C2EF, j'en dirai un mot tout à l'heure, communauté des églises de l'espace francophone, en francophonie. Et tous ces gens-là, bon, chacun vivait sur une chose, mais c'est très compliqué de rassembler des évangéliques. Parce que c'est sûr, quand on rencontre le Seigneur, il y a une révélation. Et on dit... Et des fois, il y a des excès. Bon, alors c'est pas facile le chemin qui consiste à se reconnaître en disant, bon, c'est quand même bien le même Seigneur qui est mort pour nous. C'est bien Jésus qui est mort à la croix pour nous. C'est bien lui qui est ressuscité. C'est bien de lui qu'on a reçu la vie. Et quand il y a vraiment la vie qui est reçue, je peux vous dire que quand on rencontre quelqu'un, on sait qu'il a reçu la même. Et c'est simplement reconnaître ça. Alors, c'est pas facile. Moi, je vous le dis franchement, ça n'a pas été facile au début de ma conversion. C'était tellement puissant, j'avais l'impression que j'étais le seul à avoir compris quelque chose. Bon. Le Seigneur s'occupe de nous, de plein de façons. Enfin, c'est toujours la même façon. Il m'est bon d'être humilié pour connaître tes statuts. Il m'est bon de reconnaître dans mon frère, dans ma sœur, qu'il y a eu des cheminements un peu différents, qu'il est aussi né de nouveau, qu'il a aussi été pardonné. Voilà. Vous savez, il ne faut pas compliquer les affaires. Le CNEF est né, d'abord, de responsables de ces fédérations qui ont été convaincus de péché par le Saint-Esprit en disant « Mes frères aussi, baptistes, mes frères aussi des assemblées de Dieu, mes frères aussi darbistes, c'est des rachetés de l'Éternel. » Pas facile comme démarche. Hein, je ne vous fais pas tout l'historique. Mais initialement et fondamentalement, c'est né de ça. Donc ça s'appelle le Conseil national des évangéliques de France, qui regroupe, sous diverses sensibilités, mais tous ceux qui, on va dire, reconnaissent, je vais au moins citer ce point, que la parole de Dieu, la Bible, est l'autorité, et la seule autorité, concernant le salut, la grâce et toute chose qui concerne notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est ça le socle. Et je peux vous dire que c'est pas rien, parce que cette chose-là est de plus en plus battue en brèche. Y compris d'ailleurs, parfois, au sein même de cette famille. Donc, un des points fondamentaux, quand même, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Je veux dire, l'inhérence, il n'y a pas à dire oui, mais c'était pour ce temps-là. Alors, l'interprétation de l'Écriture, c'est une chose, mais nous reconnaissons l'autorité de la parole de Dieu. Voilà. Et ça, je me tiens à ce point-là, hein, parce que c'est, je ne peux pas tout développer ce matin. Et donc, le CNEF est né, démarré en 2010. Ça se veut aujourd'hui, le CNEF, une plateforme, si vous voulez, pour l'ensemble du monde évangélique, basé sur cette confession de foi, hein, que je ne détaille pas, et qui offre différents services aussi, et puis qui cherche à rassembler, à coordonner. Alors, on en est là aujourd'hui. Je crois aussi qu'il y a une préoccupation de la part des évangéliques d'avoir une espèce de reconnaissance aussi auprès des autorités. Alors, pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a là je vous dis, tant que responsable de cette église, je vous dis ma vision et je vous le préciserai, pourquoi pas, hein? Mais ne cherchons pas à plaire au monde, à être reconnu par le monde et à recevoir nos félicitations du monde. Si nous sommes là, je vous le dis tout de suite, c'est que nous sommes déjà reperdus. C'est qu'on s'est rebarré du mauvais côté. Hein? Nous sommes aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ, tant que le Seigneur ne sera pas revenu et que nous ne serons pas au festin qui a été annoncé, l'Église de Jésus-Christ est appelée, et plus que jamais, à porter l'opprobre de Christ avec lui, hors de ce monde, hors de l'esprit de ce monde. Hein? Bon, je m'en tiens là. Nous sommes donc, à ce jour, membres du Conseil national, à travers notre rattachement à la Fédération, membres du Conseil national des évangéliques de France, la FEPEF ayant été un des membres fondateurs de cette convention nationale. Voilà. Je voulais vous repréciser un peu les choses, parce que vous dites, bah, tiens, le pasteur. Alors, cette pastorale, cette année, nous sommes allés avec Yves et Marie-Thérèse, qui ont continué leur course, donc j'étais avec Marie-Annick. J'essaye à chaque fois d'y aller aussi, avec un des responsables de l'Église, plusieurs, bon, il y a certains travails, tout ça n'est pas facile, il faut prendre quand même 4 journées. Voilà. Alors, le thème de la convention... 2007. Donc il y a 2 conventions par an, l'une au mois de mars qui se déroule à l'église du Chandelier à Grenoble et l'autre au mois d'octobre qui se déroule à la Porte Ouverte à Mulhouse pour des raisons très simples, des raisons de logistique, c'est que c'est les 2 églises qui sont en mesure de recevoir et d'assurer des repas pour 350-400 personnes. Voilà. C'est aussi simple que ça. L'esprit au démarrage était que ça tournait dans les différentes églises membres de l'ASF et de la FEPEF. Et puis pour la FEPEF, nous avons par ailleurs un congrès au début juin chaque année, où là, je dirais que il y a la vie de famille d'église qui s'échange et puis toutes les choses statutaires qui doivent être réglées. Alors la convention de mars, là de 7, 8, 9 mars dernier, le thème était « Dimension prophétique dans l'Église ». Et j'ajouterai ce matin « Dimension prophétique aussi de l'Église », parce que vous allez voir les intervenants qui étaient là, je pense, manifester les 2 choses. C'est-à-dire comment les dons prophétiques, dans toutes ces acceptions, je vais y revenir, dans toutes ces manifestations, peut et doit s'exprimer dans l'Église. Et puis, vie prophétique de l'Église, parce que je crois que l'Église est prophétique pour le monde. C'est-à-dire qu'elle annonce quelque chose, elle témoigne de quelque chose, elle provoque aussi quelque chose dans le monde. Si l'Église ne provoque plus, pas au sens d'une provocation facile et qui cherche à faire mal, mais elle dégage un parfum. Et ce parfum ne peut pas laisser insensible le monde. Alors, dégageons le bon parfum de Christ, mais si c'est cela, il y aura des réactions du monde et c'est normal. Hein. Alors, il y avait trois intervenants. L'orateur principal était Steve Fedele et son épouse Rita. Donc, un ministère à orientation clairement prophétique qui encourage les églises et le responsable à accueillir la dimension prophétique dans l'église en la gérant. Excusez-moi l'expression, mais c'est quand même bien cela. J'ai aimé cette expression « gérer le prophétique » entre guillemets dans les berges de la rivière. C'est-à-dire, ça explique bien les choses, je développerai peut-être un petit peu. Il y a une notion de liberté, laisser l'esprit agir et rester dans les berges de la rivière. On pourrait dire, c'est à la fois la parole. Et il avait cette image, si une rivière coule, n'ayons pas peur que la rivière coule avec abondance. Attention à l'inondation. Sur les bords de la rivière, hein, dans Apocalypse 22, il y a des arbres qui poussent, sur lesquels c'est des arbres dont les feuilles serviront à la guérison des nations. Mais s'il y a inondation, l'inondation détruit. La rivière amène la vie, une rivière bien pleine, gorgée d'eau, amène la vie, l'inondation amène la mort. J'ai aimé cette expression. Alors, les interventions de Steve et Rita Fedele étaient orientées clairement dans une perspective après quelques décennies où les ministères prophétiques, enfin, un certain nombre de ministères prophétiques sont intervenus dans des églises et à diverses occasions, mais parfois ont laissé des traces douloureuses. Je vais revenir sur la prophétie dans une deuxième partie. La prophétie, c'est pas simplement dire à telle personne, voilà ce qui va t'arriver. Et souvent, alors, il y a soit les prophètes de malheur, soit les prophètes qui prophétisent des ministères à tout le monde. Je le dis parce que c'est quand même la vérité. Et on voit les dégâts que ça fait. Donc cette chose-là doit être gérée, parce que c'est grave. Hein ? Mais je vais développer ça après sur prophète de l'Ancien Testament, prophète du Nouveau Testament, la différence. Donc ce couple se positionne clairement là-dessus, comme amenant aussi aux églises, aux responsables d'églises qui ont eu à gérer ces choses-là, qui ont connu des douleurs terribles, voyant des gens, à partir d'une prophétie seule, partir, engager des vies dans des directions folles, quoi. Donc vraiment, ils se positionnent comme ça, amenant à la fois guérison peut-être à des conducteurs qui eux-mêmes ont été marqués par cela, mais aussi disant, n'abandonnons pas, et invitant à ce que la vie, les ministères prophétiques puissent largement s'exprimer. Moi, je suis complètement, je veux vous le dire, en phase avec cela. Hein ? Et j'aime bien, c'est pour ça, j'aime bien ces termes, une rivière abondante, mais dans les berges de la rivière. On sent très bien, en écoutant ce couple, ils ont exercé un ministère pastoral pendant une vingtaine d'années. Et ça, ça aide. Et ça, ils n'ont pas besoin de le dire, ça se voit, ça se sent quand ils parlent. C'est des personnes qui ont été éprouvées, qui ont souffert. Vous savez, ce n'est pas les discours là. À un moment, on sait. Quand on vit des choses, on se dit, oh, celui-là, il l'a vécu. Il ne me cause pas de... Ce n'est pas un théoricien, celui-là. Il sait de quoi il cause. Hein ? C'est vraiment... Et moi, j'étais vraiment encouragé par ce qu'ils ont apporté. J'y reviendrai. Il y avait deux autres intervenants principaux, il y avait des ateliers. Il y avait Jean-Marc Potenti. Alors, Jean-Marc Potenti, ben justement, c'est un ministère apostolique qui est président de la C2EF, justement, des communions des églises de l'espace francophone. C'est un réseau, je veux dire, apostolique. J'aime bien ce terme de réseau. Ça convient tout à fait à l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas des structures, c'est des familles en réseau. Hein ? Il y a du cousinage, il y a des liens, et c'est toujours des liens... À l'origine, c'est toujours deux personnes. Et c'est des rencontres, des vraies rencontres. Des serviteurs de Dieu qui se rencontrent et puis il se passe quelque chose dans le cœur. Et là aussi, on le sait, à partir de là, quelque chose va naître. Hein? Et donc, c'est une famille d'églises qui sont nées dans le sud-ouest à partir, justement, d'un ministère apostolique, hein, qui ne s'est pas autoproclamé ministère apostolique. c'était un pasteur. Et puis, ses frères ont reconnu qu'il avait une dimension pour coordonner, pour aimer, pour mettre en liaison. Et puis, il y a des ministères prophétiques. Il y a toujours un ministère prophétique à la base. Hein, c'est le ministère prophétique, je rappelle, hein, le ministère prophétique, d'abord des apôtres, puis des prophètes, ensuite des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de guérison, etc. Il y a un ordre aussi. Pourquoi ? L'apôtre, c'est celui qui va établir, qui va être littéralement envoyé, qui va établir et multiplier. Le prophète va donner une direction, hein, je fais très très vite, hein. Et puis, le pasteur va prendre soin, hein, va prendre soin, va protéger aussi la bergerie locale. Hein. Il y a toutes ces dimensions, j'avais souligné ça. Les anciens, ou évêques, épiscopaux, c'est les veillants sûrs et surveillants. Hein. Ils veillent à l'intérieur, ils veillent à l'extérieur. Vaut mieux. C'est pas quand l'ennemi, le loup ravisseur, est rentré dans la bergerie, les dégâts vont être faits. Vaut mieux éviter qu'il rentre. Hein. C'est pas toujours facile. Bon. Et puis les docteurs, j'aime bien ça, les docteurs, c'est les nutritionnistes un peu. Hein. Ils indiquent les bonnes nourritures, puis ils font les dosages qu'il faut, puis ils creusent, hein, ils expliquent de quoi est constituée la nourriture. Voilà. Alors Jean-Marc Potenti, donc ministère apostolique, qui est intervenu, lui, sur la complémentarité, justement, du ministère apostolique et du ministère prophétique. Il est responsable du réseau Nouvelle Connexion, bon. C'est-à-dire qu'il considère que les équipes apostoliques aussi, il peut y avoir plusieurs au niveau d'une région, il peut y avoir des dimensions géographiques différentes. Alors tout cela, c'est pas la multinationale, hein, avec des organigrammes bien arrêtés. C'est une vie aussi entre des connexions que Dieu met entre ses serviteurs. Hein. Il n'est qu'à lire le livre des Actes pour voir que le serviteur de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Paul avait une vision dans sa deuxième tournée de revisiter les églises et puis d'aller un peu plus loin. Et puis, il fut empêché par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a ouvert d'autres portes. Et puis, il va déboucher à Philippe. Il va rencontrer une femme craignant Dieu, etc., dévouée. Et puis, les choses vont se mettre en place. Donc, ça ne se passe pas comme on a décidé. Par contre, nous sommes appelés à être attentifs. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et ça, c'est vraiment une notion importante qui demande une intimité. Je crois que dans nos vies quotidiennes, il se passe des choses, il y a plein de circonstances. Seigneur, montre-moi, il peut y avoir des rencontres importantes qui s'initient. Et là, il y a des critères. Est-ce que j'ai cherché cette rencontre ? Est-ce que, ou vraiment, moi j'aime bien ça, ça me donne des choses solides quand il y a des choses qui se passent. Et après, je prends du recul, je dis, bon, attends, Robert, est-ce que finalement, c'est toi, même dans ton inconscient, qui a voulu cette rencontre ? Non, il y a des choses, manifestement, objectivement, Dieu a placé des circonstances, vous fait faire des rencontres, vient vous interpeller d'une manière curieuse, il faut qu'on soit attentif à ça. Parce que, à travers ces choses, de grandes choses peuvent se produire. On n'est peut-être pas tous appelés à un très grand ministère apostolique, parce qu'il y a beaucoup d'autoproclamés dans la manière, surtout avec les réseaux maintenant. On crée un site et ça y est, voilà un apôtre de mis en place. Hein. C'est impressionnant. Hein. Enfin, c'est impressionnant. J'ai l'air de plaisanter, mais c'est proprement scandaleux au niveau du corps de Christ. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Un ministère n'est pas autoproclamé. S'il y a appel, et s'il y a appel à un ministère, ce ministère se manifeste. La personne ne peut pas faire autrement. On n'est pas formé à la prédication. Celui qui est saisi par le Seigneur, c'est d'abondance du cœur que la bouche parle. Après, il va être formé, il va être reconnu. D'autres vont dire, mais celui-là, c'est évident, il a quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être formé. Mais on ne fabrique pas des prédicateurs ou des pasteurs ou des docteurs ou des apôtres ou tout autre service dans l'Église. On ne décrète pas celui-là, on va lui donner le ministère de guérison. Comme l'économie dit, on manque d'infirmières, il faut en former 10 000. Mais pas du tout. C'est l'architecte et le constructeur qui suscitent, et au sein de l'Assemblée, c'est reconnu, on entre dans le service. Ceux qui sont en responsabilité reconnaissent, toute l'Assemblée reconnaît. Et puis les choses se mettent en place. Hein ? Donc voilà, le deuxième intervenant, Jean-Marc Potenti. Le troisième intervenant, que beaucoup connaissent ici, Saïd Oujibou. Je vous rappelle, hein, Saïd Oujibou, musulman, converti à Jésus-Christ. Et nous l'avons... Il est venu, je crois, deux fois. Une fois à la Mabilée, c'était dans le cadre d'une action d'évangélisation sur la ville de Rennes. Et il est revenu une deuxième fois ici. Il est venu ici donner son spectacle, aussi tourné vers l'évangélisation. Liberté, égalité, couscous, je crois, hein, que nous avions bien apprécié. Et là, ça faisait un moment que je n'avais pas revu. Vraiment, là, on voit clairement que Dieu met sur la vie de cet homme quelque chose de très particulier. Et j'aime à m'arrêter un instant là-dessus parce que il est de plus en plus sollicité par les autorités de notre pays devant les défis posés par l'islam. C'est pas lui qui a été tapé à les portes, dire « Écoutez, moi je suis un chrétien converti de l'islam, je vais vous expliquer comment ça marche. » Mais devant les désarrois de nos dirigeants aujourd'hui, nos dirigeants sont en désarroi devant ce qui se passe. L'année 2015, vous avez vu, hein, avec Charlie Hebdo, etc., et le Bataclan, c'est un désarroi complet. N'oublions pas qu'on est quand même toujours en état d'urgence. Hein. C'est pas rien, on a l'air comme ça, mais... Et nos dirigeants sont en désarroi. Et ils font appel. C'est pas Saïd Oujibou qui s'est recommandé avec sa carte de visite. Mais d'abord, discrètement approché, ils font appel à un homme comme ça pour comprendre des choses. Vraiment, il faut prier pour de tels hommes, parce que vous voyez qu'on est bien loin de « Ah, oh, il faut que les chrétiens s'investissent dans tous les rouages du pouvoir ». On n'est pas du tout là-dessus. Mais Dieu appelle, place des circonstances, fait ses agencements, parce qu'il a un besoin. Il a pris. Il savait d'avance, lui. Dieu savait d'avance. Et j'aime bien cette vision que Dieu sait d'avance les choses. Nous ne les savons pas. Mais lui, il sait. Alors il saisit celui qui l'a préparé d'avance. Et il le forme. Je parlerai un peu de l'aspect prophétique. Ce n'est pas lui qui a cherché à influencer, mais les circonstances qui l'ont placé au cœur de l'histoire, Saïd Oujibou. Il nous confiait qu'un de ses neveux était impliqué dans l'attentat du Bataclan. Vous imaginez la douleur, la souffrance, les interrogatoires, les machins. Mais à travers ça, Dieu l'utilise. Parce qu'il y a un parfum qui s'est dégagé, qui n'avait rien à voir avec tout le reste. Voilà pour moi, clairement, une illustration de la dimension prophétique de l'Église pour le monde. C'est clair, c'est un exemple concret, ça. Je ne vais pas plus loin. Son intervention n'a pas été enregistrée, parce que, pour diverses raisons. Voilà. De sécurité aussi. Mais voilà, donc c'était intéressant de voir. Prions pour de tels serviteurs parce qu'ils sont vraiment là, je dirais, à la pointe, sur des chemins extrêmement étroits. Côtoient le monde du pouvoir. On sait, faut dire les choses clairement. Hein. Le tout pouvoir de tout temps, par rapport aux religions, a cherché à les contrôler, au moins à contrôler la communication. Alors, faut pas être dupe dans ces affaires-là. Je vous ai parlé de fédération, le CNEF. Hein, il y a un pendant, si j'ose dire, pour les protestants. Alors, c'est peut-être plus traditionnel, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque certains ont la double appartenance à les évangéliques. La Fédération protestante de France. Les pouvoirs aiment beaucoup ces choses-là. Bon, ils aiment bien ne pas en avoir 50 non plus. Donc, vous savez, le pouvoir aime bien les syndicats. S'il pouvait y en avoir 15, ce serait mieux. Il y a quelques années, ils ont vu apparaître les coordinations. Alors, ça ils n'aimaient pas. Hein. Ils n'aimaient pas parce qu'ils ne savaient pas la structure qui pilotait tout ça. Eh oui. Donc, vis-à-vis des religions, depuis des siècles, ils avaient la religion catholique romaine. Donc là, c'est bien structuré, c'est bien hiérarchisé. On y voit clair. les choses qui sont ensemble. Bon, après, avec la réforme, après avoir essayé de massacrer la réforme, ils n'ont pas réussi. Bon, à un moment, ils ont fini par reconnaître la réforme. Il y a toujours un temps de retard, hein, parce que s'ils pouvaient... Bon, aujourd'hui, ils n'ont plus trop de problèmes, puisque avec l'œcuménisme, tout ça, ça semble bien. Et voilà, non, mais il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dupe, hein. Il ne faut pas être dupe. Le pouvoir, l'empereur, comment il s'appelle au IIIe siècle, Constantin, il n'a pas fait autre chose. Il n'a pas réussi à massacrer tous les chrétiens, il les a intégrés. Puis, il est devenu chrétien, oui, peut-être. Et voilà. Donc, ne soyons pas dupes, ne soyons pas amers, ne jugeons pas, ne méprisons pas, tous les hommes sont appelés au salut. Mais soyons clairs quand même. Hein, soyez bien, bien positionnés dans nos baskets. Alors, je voudrais dire quelques mots autour de la prophétie, mais je crois que je reprendrai aussi dans un autre message. Quand même, mettre quelque chose au point. La définition de la prophétie, le contour un peu. D'abord, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Hein? C'est parler selon la pensée de Dieu. Il y a aussi une dimension, annoncer les oracles de Dieu, donc un peu pour l'avenir aussi. Il y a cette dimension-là, elle est forte dans l'Ancien Testament, j'y reviendrai. Et puis, il y a aussi une dimension dans la prophétie, c'est l'explication et l'interprétation des Écritures. Ne l'oublions pas. Hein? Souvent, on a quelque chose de très réducteur sur la prophétie. On pense à la prophétie personnelle pour une personne. Tu vas être ceci, tu vas être cela. Attention, hein? C'est... beaucoup, beaucoup plus large que ça. Quelques mots sur les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que je vais parler un peu par contraste. Les prophètes de l'Ancien Testament parlent véritablement de la part de Dieu, sous l'onction, j'allais dire presque sous la pression dans certains cas. Hein? C'est pourquoi on a souvent cette expression, plus de 440 fois dans l'Ancien Testament, « Ainsi parle l'Éternel » ou « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel ». Pas de doute, le prophète est là comme porte-parole, littéralement. Il porte la parole. Ainsi parle l'Éternel. C'est pas lui qui a décidé ce qu'il allait dire. Hein. Le temps me manque pour vous donner de nombreux passages. Mais enfin, Moïse devant Pharaon, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Mais Moïse, disant cela, ne faisait que dire ce que Dieu lui avait dit de dire. Hein? Exode 4, verset 21-23, l'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, il ne laissera point aller le peuple, tu diras à Pharaon. » Moïse, il n'a pas le choix, c'est pas Moïse qui a décidé ce qu'il allait dire. « Tu diras à Pharaon. » Imaginez un peu. Pharaon. Moïse qui sortait de 40 ans au derrière des brebis, pour rester correct, c'est pas comme ça qu'on dit d'habitude, devant Pharaon, on pourrait dire devant Obama, je veux pas, c'est pas une accusation, mais voilà, hein. Tu iras dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve, si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pas facile ce que Moïse avait à dire. Et ça, c'est une caractéristique des prophètes de l'Ancien Testament. Et je crois aussi de ceux qui sont appelés à ça, maintenant. C'est rarement des messages très faciles à délivrer. Je vais vous reprendre un exemple. Pourquoi ce n'est pas des messages faciles à délivrer? Parce que le peuple de Dieu est prompt à s'écarter de Dieu. Ah ouais. Oh non, Robert, t'exagères. Mais si, c'est la parole qu'il dit. Croyez-vous que nous sommes mieux que le peuple d'Israël? Le peuple de Dieu est prompt. Il aime bien les broutées, des herbes soi-disant plus vertes. Attention, ça peut donner des coliques. Hein? Voilà. Et donc le peuple de Dieu reçoit difficilement la parole de l'Éternel. Le plus souvent, les prophètes ont amené des avertissements, parfois des jugements annoncés, afin d'encourager à revenir à Dieu. Pensons Jonas à Ninive. Mais pensons aussi à l'annonce de la déportation à Babylone. Là, il y a eu annonce, et à un moment, le prophète doit dire, ça va se passer. Parce que Dieu est patient, mais à un moment, il opère des jugements. Je vous invite, je ne vais pas lire ces chapitres, mais je vous invite à relire dans Jérémie les chapitres 21 à 30, donc on ne va pas les lire là. Mais simplement, sur ces chapitres, sur ces 10 chapitres, on voit que Jérémie, c'est en permanence, hein, là vous avez au moins 100 fois « Ainsi parle l'Éternel ». C'est-à-dire, Jérémie dit de la part de Dieu, j'allais dire mot à mot ce que Dieu veut que le peuple entende. Il lui dit quoi? Il annonce la déportation à cause de l'idolâtrie, de la résistance et de l'endurcissement. Et il le dit. Il dit voilà ce qui va se passer, parce que l'idolâtrie, ça fait des siècles que ça dure, parce que vous avez résisté alors que je vous ai parlé à de nombreuses reprises, et parce que vous vous êtes endurci. Il annonce en même temps la protection au sein même de cette déportation. Dieu est un Dieu qui aime. Il ne nous laisse pas, il ne condamne pas, il ne pointe pas, mais il dit les choses. Il annonce la durée de cette déportation, ce qui lui vaudra encore des persécutions. Parce que de faux prophètes ont dit, mais non, dans 2 ans, on sera de retour à la maison. Jérémie dit non. L'Éternel parle, 70 ans. Alors installez-vous, je reviendrai sur ce thème-là. Demeurez dans la ville et faites le bien de la ville où vous aurez à vivre. Parce que ce verset peut être utilisé de manière un peu tordue. Donc il annonce la durée de cette déportation, il annonce le retour, et il annonce le libérateur, un germe. Il annonce le jugement sur les nations qui ont méprisé le peuple qu'ils auront asservi. C'est-à-dire Dieu annonce en même temps tout ça, sur ces 10 chapitres. Il annonce que les nations dont Dieu va se servir pour réaliser le jugement sur son peuple. Ces nations s'enorgueillissent en disant, voilà le peuple de Dieu. Dieu ne supporte pas ça, qu'on méprise son peuple. Même c'est lui qui le juge. Et Dieu annonce à son peuple qu'il jugera les nations par lesquelles il a opéré son jugement. Et il annonce la guérison et la restauration. En 10 chapitres, voilà un Dieu d'amour. On ne peut pas prendre une parole, simplement. Il faut prendre le tout. Dans ces 10 chapitres, Jérémie annonce tout ça à son peuple. Je ne sais pas vous, moi ça me bouleverse, parce que c'est ce qu'il fait dans nos vies, à travers ça, c'est nos vies. Moi je sais que vraiment, quand je me suis converti, je l'ai vu aussi comme un jugement sur ma vie, mais pas seulement. J'avais ce verset terrible, hein, compte tenu de ma vie ancienne, ce que tu as fait en secret, je le ferai. Je montrerai, je livrerai tes épouses sur les terrasses des toits, et le monde le saura. Des jugements terribles. Mais en même temps, cette main qui dit, mais j'ai payé pour toi, et je t'aime, et je te guérirai, et j'ai reçu cette parole, je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a tout, il faut tout prendre, mais il faut lire un petit peu. Lisez ces 10 chapitres, je vous encourage vraiment. Autre dimension, les prophètes ont souvent été amenés à incarner, à vivre le message qu'ils annonçaient. Et ça, je crois qu'en ce moment, c'est vraiment ce qui se passe. Plusieurs prophètes le déclarent. Mais le déclare, c'est une chose. Mais quand on les rencontre, on sent qu'il y a ça. Une vie de souffrance. Vous savez, quelque part, on a tous une dimension prophétique. À partir du moment où on a réellement reçu Christ dans notre cœur, ce que l'on voit dans le monde amène une souffrance. Je dis souvent, c'est difficile ça à dire, mais venir à Jésus-Christ, c'est connaître des souffrances qu'on n'avait pas connues. Je ne parle pas des souffrances conséquences d'un péché qu'on continuerait de caresser. Je ne parle pas de ça. Mais de voir, de saisir le monde, de voir éventuellement ce qu'on aime, se perdre dans des voies, ça amène une souffrance. Et le problème du prophète, c'est qu'il ne s'agit pas de parler à tort et à travers. Il faut porter aussi un moment. Et Seigneur, montre-nous le moment où je dois parler. Ça, c'est compliqué, j'y reviendrai un peu. « Pour terminer sur les prophètes et les prophéties de l'Ancien Testament, je voudrais préciser qu'elles sont rapportées dans les Écritures et elles constituent un des fondements de la foi chrétienne sur laquelle la maison de Dieu, l'Église, est construite. Alors ça, c'est important, parce que là, c'est une distinction avec la notion prophétique qu'on trouvera dans le Nouveau Testament, dans la parole prophétique du Nouveau Testament. Éphésiens 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour un temple saint, pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. » 1 Pierre 1, verset 10, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger le regard. » L'Église de Jésus-Christ est fondée sur la pierre angulaire. J'avais déjà parlé de cette pierre angulaire. La pierre angulaire nous donne les trois dimensions. Elle doit être posée sur une base bien horizontale et elle va donner l'orientation de la maison. Eh oui. Et puis elle va donner la verticalité. Les prophètes ont annoncé le salut, Jésus-Christ l'accomplit, les apôtres nous donnent la révélation reçue de Dieu sur le sens de ce qui est accompli à la croix. Donc les choses sont très très claires. C'est pas, il est dit aussi, c'est pas par des fables, des choses comme ça, mais c'est vraiment des choses reçues de Dieu. L'architecte, le constructeur, c'est aligné, c'est clair, c'est net, même s'il y a des choses difficiles à comprendre. Mais c'est quelque chose de structuré et de solide. Alors, la dimension prophétique dans l'Église, qu'en est-il finalement de la prophétie aujourd'hui pour l'Église? Est-ce que tout ça c'est terminé? Qu'il n'y a plus de prophètes? Non. Par contre, le canon des Écritures est arrêté. Nous disposons de la totalité de la parole écrite que Dieu a voulu laisser. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous avons plus que la loi aujourd'hui, nous avons la totalité de ce que Dieu et le canon des Écritures est terminé. La parole prophétique aujourd'hui ne vient pas ajouter à la parole de Dieu, ne se substitue pas à la parole de Dieu. Par contre, elle nous en donne des éclairages et elle nous aide aussi à la comprendre. Donc c'est aujourd'hui le temps de la grâce, le temps de l'Église fondée à la Pentecôte, qui ouvre une période où Dieu conduit les croyants, pécheurs repentis, ayant accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, les conduit par le Saint-Esprit. Jésus n'est plus là en chair, mais il ne nous a pas laissés seuls. Christ est en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le privilège de la nouvelle naissance nécessaire pour être conduit par l'Esprit de Dieu. On met des fondamentaux. Celui qui a Christ a la vie, celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Ce n'est pas perdu pour lui, il faut qu'il cherche la vie. Et Dieu est prêt à la donner. Et il y a au sein du corps de Christ, constitué de l'assemblage des pierres vivantes, tous les dons et les ministères ou services nécessaires pour le perfectionnement des saints. Et vous savez que c'est un thème qui nous est cher, je ne développe pas Éphésiens 4, Éphésiens 4, Romains 12, 1 Corinthiens 12, je vais assez rapidement ce matin. La dimension prophétique est importante dans le temps de l'Église. Nous croyons que Dieu continue d'accorder les dons et les ministères pour l'édification du corps de Christ. Tous les dons, selon Romains 12, versets 6 à 8, et selon 1 Corinthiens 12, tous les ministères, j'aime bien appeler les ministères au sens d'Éphésiens 4, des hommes dons. Dieu a fait des dons aux hommes et il a donné des hommes à son Église. Littéralement, il les a livrés. Il les a livrés à l'Église. Et le tout doit être bien coordonné dans l'humilité et l'amour. en vue de l'édification du corps et du perfectionnement des saints. Voilà, ça c'est pour l'ensemble des ministères. Pour le ministère prophétique, je voudrais rappeler qu'il est assez large dans ses manifestations. D'abord, Paul nous invite à le rechercher. Il le met d'ailleurs en, je dirais pas en contraste, mais quand même avec le parler en langue, hein, ou en résumé, il dit le parler en langue permet de s'édifier soi-même, et c'est une bonne chose. Il dit, je voudrais que vous parliez en langue, je parle en langue plus que vous tous, néanmoins, je vous serais d'aucune utilité si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas, par connaissance, par prophétie, par doctrine. Important. Important. Hein? Ne ramenons pas à une seule chose. Hein? Donc, aujourd'hui, tous sont appelés à rechercher le don de prophétie. C'est-à-dire d'une parole inspirée de Dieu. Pour l'édification, donc pour le service. Pas pour se mettre en avant. Pour le service. Et il y a trois choses qui nous sont données pour édifier, exhorter, consoler. Donc sûrement pas pour aligner. Soyons clairs. Hein? C'est vraiment pour édifier. La version parole vivante nous dit, c'est-à-dire aider à prendre des décisions opportunes, stimuler les progrès, fortifier dans des convictions, encourager dans la bonne voie. J'aime bien cette façon de dire. Et je me réjouis qu'il y ait cette liberté, respectueuse aussi, dans l'Église, de pouvoir apporter. Donc l'exercice, entre guillemets, du prophétique, j'aime pas beaucoup, mais enfin, on peut dire cela. Ça peut être effectivement une parole à porter à la communauté. Il y a aussi l'exercice prophétique dans la prédication de la parole. Hein. C'est un des mystères de la prédication. Pourquoi devant 100, 200, 300 ou 10 000 personnes, d'un seul coup, une parole du prédicateur va aller bouleverser une vie. Ça, c'est vraiment un mystère, mais c'est ainsi. Hein. Donc, il y a la dimension prophétique aussi dans la prédication, ne l'oublions pas. La prophétie ne doit pas être méprisée, mais examinée, notamment par rapport à la parole de Dieu. Et là, je crois que là, on est sur les berges de la rivière, la question des berges de la rivière. Sans excès, ça doit apporter la vie. Hein? Ça doit apporter la vie. L'apôtre Paul nous invite à ce que tout se passe en bon ordre. Hein? S'il a une parole, eh bien qu'il la donne. Si un autre a une parole, que le premier s'assied et puis laisse la place. Et que les choses soient examinées. Il y a aussi, lorsqu'il y a des paroles prophétiques, les choses vont... Normalement, c'est une rivière. Hein? Une rivière, elle ne coule pas dans tous les sens, elle va dans un sens. Hein? On voit bien qu'on a des cultes ou des réunions de prière, où il y a une direction qui est donnée. Des fois, ça va être vraiment sur une compassion, la supplication. D'autres fois, c'est vraiment des temps d'adoration. Hein? Laissons-nous, ce n'est pas simple. Et puis, on ne reconnaît pas toujours. Hein? C'est un travail de voir ce qui se passe. Quoi. Une notion importante, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et donc, je soulignais là que Steve et Rida Fidel insistaient vraiment sur cette question de la rivière prophétique. Hein, Ézéchiel 47, Apocalypse 22, nous parle vraiment de cette rivière qui amène la vie et la guérison. Très important, ces arbres, avec les feuilles qui servent à la guérison des nations. Et la rivière prophétique qui coule du temple aussi, dont le volume augmente. Et je pense qu'on est dans ces temps aussi où la rivière s'ouvre largement. Vous savez que la mer, dans la Bible, c'est souvent représentatif des nations aussi. Hein? Des nations où le fleuve prophétique vient effectivement couler sur les nations. Qui globalement, le monde est déjà jugé, mais Dieu continue de dispenser à travers son Église et à travers les dons qu'il donne, pour que la parole soit vraiment reçue dans les cœurs. Hein, c'est aussi toute cette dimension. Je voudrais terminer par deux, trois points, puis peut-être je reprendrai ça. Simplement, pour la notion comment se vit la dimension prophétique dans l'Église, bon, c'est Dieu qui donne. Je voudrais dire, pour ceux et celles qui prophétisent plus ou moins régulièrement, l'humilité et en même temps le courage. Ça demande humilité. Vous savez, je me rends compte que moi, personnellement, mais je ne suis pas le seul, on est touché quand on sent, même si on a... J'ai reçu quelques paroles, j'en ai pas reçu 50, moi. Mais de gens vraiment que je ne connaissais pas, de ministères que je ne connaissais pas du tout. Et ce qui m'a touché, et pourquoi j'ai cru, je les ai saisis. Bah parce que d'abord, elle confirmait quelque chose que j'avais déjà dans mon cœur, mais vraiment, elle le confirmait, elle l'attestait, et il y avait des preuves que gens que je ne connaissais pas. Mais il y avait quand même, il y avait l'humilité qui m'a beaucoup touché. Je pense à André Wilkinson, par exemple, qui est disparu il y a 2 ans à peu près. Il y avait une humilité. Le prophète du Nouveau Testament, je vous mets en garde. Attention, ainsi parle l'Éternel. Cet homme ne disait pas ça. Il dit, voilà ce que j'ai. Il disait, je vous soumets cela. Et ça, je pense que c'est biblique. La prophétie ne doit pas examiner, elle ne doit pas être éteinte. Elle ne doit pas être condamnée, refusée. Elle doit être examinée, reçue. Je vous soumets cela. C'est pas agressif. Pour ceux, l'exercice prophétique, c'est discerner le temps, le courant qui se passe. C'est accepter d'être repris ou simplement de recevoir une remarque. C'est s'en tenir à ce qui a été reçu. Reconnaissons que des fois, on voit au-delà. Hein ? Mais c'est conforme aux Écritures. C'est pour ça qu'il nous dit « examinez toutes choses ». Pour ceux qui reçoivent une prophétie, et je pense une prophétie personnelle, je vous donne des conseils un peu pratiques aussi. Premièrement, ne pas courir après des paroles prophétiques, surtout si c'est pour chercher à entendre ce que l'on a envie d'entendre. Je rappelle, et c'est solennel, que dans Akab et Jézabel, il y avait vraiment une armée de faux prophètes, et Akab ne voulait pas entendre la vérité. Et à un moment, c'est Dieu qui va envoyer un esprit de mensonge. Ce n'est pas l'ennemi. Dieu va envoyer un esprit de mensonge, et ça nous est repris dans le Nouveau Testament, en disant ils ont repris un esprit d'égarement, un esprit de mensonge, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce dont nous avons besoin, c'est l'amour de la vérité. Donc pour ceux qui reçoivent une prophétie personnelle, ne pas courir après. Dieu place les circonstances. Je me rappelle, je cite ça, parce que c'était, je crois, en mars 2013. Je ne connaissais pas André Wilkinson, moi. Je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler. Et Marie-Thérèse nous appelle, tiens, on va à tel endroit, ça. Vous sentez, venez avec nous. Je dis oui. Ce soir-là, quelque chose de très précis. Ne cherchons pas à créer des choses. Ne courons pas après les ministères, je vous en supplie. Examinez ce qui est dit. Je crois que c'est important, si vous recevez une parole de quelqu'un, examinez ce qui est dit au regard des Écritures. Vérifiez l'attitude du ministère considéré par rapport aux autorités ecclésiales du lieu où vous êtes. Ça, c'est important. Si c'est un freelance, comme on dit, si c'est un indépendant, fuyez. Fuyez. Examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, mais examinez ce qui est bon. Enfin, je voudrais ajouter qu'une décision ne se prend pas à partir d'une prophétie, d'une parole prophétique, aussi précise soit-elle, seulement. D'autres critères sont là, je ne vais pas les développer. Une conviction personnelle, une paix dans son cœur, la vie de quelques frères et particulièrement d'anciens, de responsable de l'Église, c'est biblique. La parole, que dit la parole par rapport à ce que vous voulez faire ou la décision que vous avez à prendre, et les circonstances. Mais je ne développe pas ça. En tout cas, on ne prend pas une décision simplement sur une parole prophétique reçue. Enfin, par rapport à la prophétie, l'Église ou la communauté si on invite des ministères. Parce que le ministère prophétique, alors certains disent, dans chaque église, il faut qu'il y ait tout, pas forcément. Le ministère prophétique, plusieurs personnes peuvent avoir le don de prophétie, heureusement. Par contre, un ministère, pas forcément, dans chaque église. Par contre, les ministères sont donnés au corps de Christ. Donc ça fait partie sans doute de ces ministères un peu itinérants. Ce n'est pas choquant du tout. Par contre, l'église locale et ses responsables ont une responsabilité, justement, d'examiner, de connaître le ministère invité, de voir les fruits qui ont été portés, le témoignage, que s'est-il passé après son passage. Aussi, la responsabilité de la communauté, c'est vrai, c'est discerner au sein du corps si des hommes, des femmes ont ce ministère qui pourrait émerger, l'encourager, l'accompagner. Je vais m'arrêter là ce matin parce que ça fait beaucoup. Et je voudrais simplement conclure par une chose. Dans toutes ces choses, ça fait beaucoup de choses là que je vous ai partagées. Quelque chose m'a marqué au fil des quelques années. C'est vraiment cette humilité et l'amour. Et je voudrais simplement, pour terminer, lire 1 Corinthiens 13. Je vous partage quelque chose là, finalement, de plus personnel. Je reconnais, moi aussi, que mon regard change sur beaucoup de choses. Il y a vraiment diversité dans le corps. Ce n'est pas parce que ce n'est pas facile à gérer qu'on ne doit pas le reconnaître et nous aimer. Et Yves nous invitait, c'est vrai, on a son tempérament, on a sa personnalité. Hein, Dieu change notre caractère, mais on garde une couleur, quoi. Hein, et vraiment, moi, je veux demander pardon s'il y en a par une parole peut-être trop tranchée, je ne sais pas. J'ai pu blesser d'une manière qui n'est pas juste. Mais on est tous en chemin, votre serviteur aussi. Et pour ça, j'aurais terminé par 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais pas l'amour. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. Puis nous allons simplement prier que, Seigneur, nous venons devant toi, nous te rendons grâce pour ce si grand salut, pour ta parole que tu nous as laissée, Seigneur, qui révélée par ton esprit, Seigneur, est une rivière, une source abondante. Tu nous dis de venir boire à ces eaux-là. Elles sont disponibles et gratuites. Seigneur, nous avons besoin de mieux saisir, de mieux connaître, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, et nous te demandons pour notre assemblée, mais aussi pour tout le corps de Christ, mais pour notre assemblée, Seigneur, que tous les dons, Seigneur, que tu veux donner pour l'édification du corps, Seigneur, puissent être reçus, reconnus, encouragés, formés, entourés, Seigneur. Seigneur, que toute crainte, toute peur, Seigneur, de débordement soit ôtée aussi de mon cœur, du cœur des responsables, mais aussi, Seigneur, que tu remplisses chacun de l'amour de la vérité. En ton nom, Jésus-Christ. Amen.